noir. Faudra que ton angoisse disparaisse si ça passe. Voilà l'intraveineuse, ta solution à cause.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque mercredi quasiment, sur donc cette chère radio. Et on commence l'émission d'abord avec un témoignage intitulé tout simplement Hospitalisation psychiatrique, un témoignage trouvé sur le site Comme des fous. Ensuite, je vous parlerai du collectif Arrêt des traitements forcés, suite à un auditeur qui nous demandait qu'est-ce que c'est que ce collectif. Eh bien, nous en saurons plus tout à l'heure. Et puis, pour finir, la lecture de certains passages, ou peut-être même intégrale, de la brochure intitulée « Gilles Deleuze et Félix Guattari, la machine à gazouiller » de Guillaume Hollendorf, Info kiosque B17 Nantes, mai 2010. Donc ça c'est une brochure qu'on peut donc trouver sur Info kiosque et qui fait l'éloge de ce duo Gilles Deleuze Guattari, et donc l'éloge aussi de l'anti-Œdipe. Et bien sûr, ce sera une lecture accompagnée de commentaires critiques, bien entendu. Et voilà pour le sommaire. Alors, sur le site Comme des fous, un témoignage, hospitalisation psychiatrique. Je témoigne car avec l'écriture dans mes mains, le silence me rendrait complice. J'ouvre les portes de l'hôpital psychiatrique sans fiction. C'est bien loin de l'image que l'on s'en fait dans les films. C'est pire. Ce n'est pas nous qui faisons peur, ce sont les conditions d'accueil et le quotidien qui sont à dénoncer. Je raconte mon expérience. Je la sais malheureusement commune. Je serai d'abord dépossédé du contact avec mes proches. Mon téléphone me sera enlevé. Je le retrouverai plusieurs jours plus tard. Avec un SMS de mon compagnon qui s'excuse de m'avoir interné sous contrainte et qui pleure à chaudes larmes. Je n'aurais même pas pu le rassurer par moi-même. Non, il n'aura que les paroles des soignants et soignantes qui l'informeront de si je suis calme ou non. Il vivra sa culpabilité seul. En France n'existe pas encore cet intermédiaire où je serais bien accueilli, et il le savait. J'ai eu la chance inouïe qu'un ami s'occupe de lui et lui dise de me ramener des affaires. Il lui a dit d'ajouter surtout un agenda et un stylo. Bien vu. Puis je serai dépossédé de mon corps. Ce seront ses premières sangles qui m'attachaient sur cette table, pieds et poings liés. Justifié par quoi ? Je m'exprimais en poème aux urgences. Malgré mon état délirant, je savais où j'étais. Je savais que si je me débattais, on m'aurait gardé plus longtemps attaché. J'ai accepté de me faire saucissonner. Les soignants et soignantes ne m'ont même pas assez sédaté, ni même venu me voir si je dormais. Une très grave erreur. De fait, j'ai déliré pendant plus de 12 heures, me tortillant sur ma table. Entre les histoires que je me racontais et persuadé que j'avais besoin de purger un péché pour être là. Elles ont une caméra pour surveiller. Elles ont dû bien dormir ce soir-là puisque personne n'est venu. Je me souviens de chaque seconde de mes délires et c'était long, très long. Plus les heures passaient, plus les délires s'aggravaient avec des hallucinations. Le matin, elles sont venues me mettre une couche. Je ne vous fais pas de dessin. Quand on prive quelqu'un d'aller aux toilettes, c'est comme dans les Sims. Et elles m'ont demandé si je savais qui j'étais. Je savais qui j'étais, mais j'ai hésité. Je réponds « prophète ou non ?» Après une nuit entière à délirer, donc à abîmer mon cerveau, j'étais encore partagé. J'ai donné la mauvaise réponse. Moi, je voulais juste vapoter. Mes affaires étaient de l'autre côté de la vitre. J'ai juste demandé qu'on me fasse sortir 5 minutes dehors pour que je prenne l'air. Mais non. L'isolement, c'est se pisser dessus, être privé de contact et d'air pour une faute que nous n'avons pas commise. Priver un cerveau de nicotine aussi longtemps sèchement, c'est aggraver le choc. Alors je collais mon visage et mes mains contre la vitre qui me séparait de mes affaires. Je voulais récupérer le collier offert par ma maman qui aurait pu me rassurer. Mon pantalon souillé. Après l'isolement, on m'a mise dans une unité rapprochée. Mais j'ai fait un retour à l'isolement. Parce que j'ai réussi à sortir me promener. Je suivais les signes de Dieu, entre guillemets. Et pour ce coup-là, il avait assuré parce que normalement, c'était bien surveillé. Et elles ont dit que je m'étais enfui alors que j'ai dit que j'étais perdu. Retour à l'isolement, de par l'invalidation de ma parole. Puis retour à l'unité rapprochée. Et là, elle m'avait, par contre, trop donné de médicaments. Je n'arrivais plus à parler. Dépossédé de ma parole. J'essayais d'écrire dans le journal apporté par mon copain. Je n'y arrivais pas à cause de la surmédication. J'avais besoin de noter mes questions, mes besoins. Les soignants ne me parlaient pas et ne m'expliquaient rien. J'ai commencé à noter les dates pour me reconstruire les événements et les souvenirs de ce qui était important. Puis j'étais juste là parmi d'autres patients et patientes, libre de déambuler dans ce petit espace à moitié délirante. Aussi, on est dépossédé de ce qui nous calme. J'ai réussi à me faire comprendre d'un autre patient, lui dire que j'avais besoin de musique pour m'apaiser et mettre mon morceau en boucle. On m'offrait des roulés avec grand plaisir et empathie, et sans nul doute de la pitié. Puis j'ai rencontré celui que j'appelle mon soleil. Je lui ai demandé s'il faisait partie du personnel tellement il s'occupait bien de nous, de moi. Non, lui, il était là parce qu'il avait tenté de se suicider. Comment les soleils peuvent-ils vouloir s'éteindre ? Je passais mes journées à subir mes traitements trop forts, atroces, avec des dyskinésies au visage. Ma bouche était tordue, m'empêchant de vapoter correctement. Mon seul plaisir. Il faisait froid. J'avais raté Noël. Un patient a réussi à m'emmener dans sa chambre. On repassera pour la surveillance, même en unité protégée, entre guillemets. Une danse dégueulasse, forcée, un baiser forcé. Écœuré, démuni, sans parole, comment j'allais le dire à mon copain ? Viens me chercher, il y a un mec qui abuse de moi. On m'attache, on m'isole et on me surmédicamente. Mon compagnon pouvait effectivement pleurer. J'ai fini par en parler à mon soleil, qui a pu signaler cette brave merde. Je passais mes journées dehors sur un banc, au soleil, jusque tard le soir, sous la neige de décembre. Il y avait encore un peu de dignité dans ce service. Nous n'étions pas beaucoup, assez pour qu'on se parle tous et toutes, mais pas assez pour qu'un ou une soignante me parle. Puis j'ai été libéré dans une unité plus libre. C'est ça, ouais. J'ai porté pendant 3 semaines un pyjama imposé. Je n'ai jamais demandé pourquoi. Je n'avais le droit qu'à une petite cour pour sortir. Puis s'est ensuivi 1 mois de dépérissement. Au départ, j'avais encore l'énergie de la manie pour socialiser. Très vite, le traitement me zombifie. Le psychiatre ne m'écoute pas sur ma santé mentale retrouvée, ni pour mon intolérance aux médicaments. Je suis le protocole, me répétait-il, le peu de fois où je le voyais. Un protocole médicamenteux, ça s'adapte, non ? La connaissance de moi et mon récit n'avait aucune valeur, dépossédé de ma crédibilité. Pour me calmer chez moi à ma plus grosse crise maniaque, je ne prenais que la dose minimale du traitement antipsychotique. À l'HP, on m'en donnait 10 fois plus médicaments de sédation. Alors j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre, à surveiller ce qui, elle, ne repère pas que je vapotais à l'intérieur. Je ne voulais parler à personne. Je mangeais à la table des plus abîmés parce que j'en faisais partie. Je ne sortais même plus une minute par jour. Mon soleil m'offrait des cigarettes, celles que j'aime bien, mentholées. J'attendais impatiemment que mon compagnon vienne me rendre visite tous les 2 jours. Il ne m'avait jamais vu pleurer, sauf cette fois-là dans ses bras. Nous ne savions pas quand j'allais sortir. Nous savions tous les deux que c'était inutile que de me maintenir dans cet état. Aucune activité en 1 mois et demi, pas une, n'a été proposée aux patients et aux patientes. Nous déambulions entre nous, et moi je fuyais tout le monde. Puis, quel intérêt des permissions à l'extérieur ? Mon compagnon récupérait un objet cassé. Je refusais les appels de mes proches. Que leur dire qu'ils pouvaient décemment entendre ? J'avais tellement d'effets secondaires que je ne pouvais pas rester sur le canapé à regarder une série. Je piétinais le sol en faisant des allers et retours toute la journée. J'avais un regard de morte. Je cachais les sucreries qu'il m'apportait parce que c'était un peu de sa présence qu'il y avait à travers ses douceurs. Pas une fois les soignants et soignantes ne sont venus me parler en 1 mois et demi. Ce fut le plus tragique pour moi, le manque de lien. Cela demanderait-il de si grands efforts ? Je ne tolère aucune excuse institutionnelle. Je répète, je ne tolère aucune excuse institutionnelle, encore moins pour celles et ceux qui ont été envoyés en réanimation à cause de traitements trop lourds et inadaptés. Aucune excuse pour celles et ceux qui sont mortes, étouffées dans leur vomi, contentionnées sur cette table. Si mon copain n'a pas eu d'autre choix que de m'interner, la psychiatrie, quant à elle, a d'autre choix que de nous traiter ainsi. Moi, vivante, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver une autre manière d'accueillir ces phases maniaques, par l'écriture pour le moment, peut-être un jour en tant que père aidante, pour que la honte change de camp. Mon souhait, pour que plus jamais une hospitalisation en psychiatrie ne ressemble à ça. Depuis la chambre sans fenêtre, de la table où le corps devient objet, de la nuit qui dure 12 heures et ne dort pas, la main qui attache sans regarder et celle qui détache sans comprendre, j'ai vu les âmes s'éteindre sous les protocoles et les soleils qui, même blessés, réchauffent encore. Je dis ceci, le soin n'est pas un ordre, le calme n'est pas la paix, la docilité n'est pas la guérison. Je dis ceci, aucun diagnostic ne vaut une main qui écoute, aucun médicament ne remplace un regard qui voit, aucun protocole ne peut soigner sans amour. Je dis ceci, tant qu'un seul être sera attaché au nom du soin, je parlerai, car moi vivante, je témoignerai pour celles et ceux qu'on a rendus muets. Et je le répéterai jusqu'à l'usure des mots, si c'est contraint, c'est pas du soin. Voilà. C'est un témoignage de Lucie.
Ok, singe des rues, 2013, il y a plus de temps. Parce qu'on n'a pas le choix des armes, parce que c'est un fou la tour, parce qu'on y passe tous temps. Déjà 8 piges, depuis le premier opus, un coup d'œil par-dessus l'époque, paye ton vertige. 2005, santé l'essence, 2013, attends l'incendie. Les tempêtes, les cernes creusent en temps de crise. Mental en dents de scie, les taux se resserrent. Des prolétaires bâtissent des taux, leurs gosses y tapent des allers-retours. Et y'a plus de taf dans la zone. Dresser les uns contre les autres, on pète à tous les étages. Un sale temps pour les sales pauvres. Les sans-papes et les muslims, les manouches, tous les français faux. La même rengaine, les mêmes conquêtes sur le bon vieux thème, d'a qui la faute. Pareil que c'est le printemps des faces, c'est l'heure d'arroser leur drapeau. La France des pavillons, les nazis ont la délation 2.0. Les fils de pétain s'affichent, y'a v'là les bleds dans ce pays de l'âge qu'ont des salaires de vie shift. À qui profite la crise et qui la paye hein. Bah comme d'hab, les miens et les miennes, à gaspiller leurs plus belles années, à grappiller les miettes. Ce monde carbure à notre sang et nos peines. On obéit la peur au bide et on se fait taxer de parasites par des vampires obèses. Des pompiers pyromanes qui osent encore t'appeler à l'aide et tâchent de nous faire passer pour des clochards aux poches pleines porcheries. Dans le fond, je piche toujours pas comment ils font, mais j'ai une piste, on est isolé dans nos douleurs, la colère sous muselière. Un petit dame qui s'immole au pôle emploi, ça traumatise que la guichetière. Il pleut des corps à France Télécom, on t'harcèle pour un salaire et t'incarcère pour que dalle. Nos couleurs nous divisent, nos paires de couilles, nos ovaires. Des idoles, des tchékas, des histoires de terre-terre. C'est pas les porcs que ça bouleverse, hein. Quand les gamins s'entretuent pour des business ou des bouts de terre, combien de temps ça peut tenir à bout de nerf? À bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Il paraît que c'est la crise, frérot, fais un effort. Tout le monde est attendu au front, les pauvres joueront la chair à canon comme d'hab. En attendant, ça tourne en rond et fait les 100 pas comme en promenade. Gate, la fin du monde en direct aux 20h. Marde, baisser la tête, encaisser les coups et serrer la ceinture. Chaque mois, la même galère, le même couplet. Interdit bancaire, CB bloqué, on connaît ça par cœur. Ok. Passons, toujours la même merde, façon RSA, rien de s'arrange. Rester assis là, j'ai passé l'âge. À la cave, besoin des allocs, mais ça parle mal. Tu mords la langue et serres les poings à devenir barge. Rien qu'on pense sur le fil, entre carnage et calmant. C'est la dalle, il faut bien grailler, non. Les plus chanceux tiennent la caisse à Little. Quand d'autres y montent au braco et se font des sauts pour 2-3 billets de sang. Le bide en bib et de seum, on tire nos destins, la courte peine. Les portes sont fermées, l'ascenseur social en panne. Tous coincés au sous-sol. Là, compter son bel et fonce crède ou à pointer à l'usine. Plus ça avance, plus on est seul, plus on se divise. Les peines et les années s'accumulent au fond des casiers. Alors c'est ça, bon qu'à se préparer au pire, tout en esquivant la chute. Payer le baveux, éviter le cachot. Du petit confort à la liberté, tout s'achète. Même une partie de la paix sociale, se monnaie en cash et en petit sachet. Alors ça part au quart de tour. La marmaille se rebelle, attaque un quart de tour. Et c'était la tribune présidentielle. Pendant que les actes, tu parles de parachutes dorés, de tubes planqués en Suisse. En bas des portes tortures, dans l'ombre des cellules assises. Bah ouais, faut qu'on s'unisse, comme les Wolves de Plaskesi. Fenerbahçe, Beşiktaş, à la guerre de classe comme à la guerre. Même si c'est le pot de terre et le pot de fer. Combien de temps ça peut tenir à bout de nerf? À bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Combien de temps ça peut tenir? 2013, y'a plus le temps.
Crève la tôle, vit l'instant.
Majeur en l'air face à l'état
de ceux qui se lèvent en insultant.
Singe des rues à bout de nerfs sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Alors, de la part d'un auditeur qui nous demandait, pour un auditeur qui nous demandait qu'est-ce que le collectif arrêt des traitements forcés, eh bien, je répondrait que par un texte qu'ils ont produit le jeudi 13 février 2025 sur leur site, le site dont je vais donner le lien tout à l'heure. Ah oui, c'est là. Dépsychiatrisé avec ER à la fin. Et sans accent, hein, dépsychiatrisé.blogspot.com. Voilà. Convention contre la torture, 82e session, rapport parallèle pour la France. Le collectif a soumis un rapport parallèle pour la France au comité de la Convention contre la torture de l'ONU. Et voici la traduction française. Introduction. Le collectif Arrêt des traitements forcés est une organisation informelle d'usagers et ex-usagers de la psychiatrie francophone. Notre objectif est l'abolition de la psychiatrie forcée en France et dans le monde. Le collectif a soumis des contributions par le passé au comité de la Convention droits des personnes handicapées, au comité de la Convention droits de l'enfant, au bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme et à l'Organisation mondiale de la santé. Alors, paragraphe 2, le mécanisme du protocole optionnel de la Convention contre la torture, appelé en France Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou CGLPL, ne visite pas les institutions où existe la privation, des institutions où existe la privation de liberté. Bon, alors, c'est-à-dire qu'elle en visite, mais il faudrait qu'elle visite aussi d'autres établissements qui ne sont pas visités donc, par les CGLPL habituellement. Et donc, en France, en 2022, 153 000 personnes handicapées vivaient dans des institutions appelées établissements médico-sociaux ou EMS, adultes et enfants. 590 000 personnes âgées vivaient dans des institutions appelées établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD. La plupart, sinon toutes ces institutions, pratiquent des formes de privation de liberté. Dans les faits, en France, un adulte sous tutelle n'a pas de recours légal effectif pour quitter ces institutions contre la volonté du tuteur. Malgré cela, le CGLPL considère que ces institutions se situent en dehors de son mandat et ne les visitent pas. En France, 1 million de personnes sont placées sous des régimes de prise de décision substitutive, tutelle et curatelle, mais les statistiques précises sont difficiles d'accès. Nous demandons, donc écrit le collectif Arrêt des traitements forcés, nous demandons que la loi numéro 2007-1545 du 30 octobre 2007, soit changée afin que la CGLPL visite effectivement ces institutions. Là ou le, hein, ça dépend. Bon. Alors, 3, torture et traitement ou punition cruelle, inhumain ou dégradant, perpétrés par la psychiatrie institutionnelle et dans les institutions en France. Dans une étude de 2002 en France, 80 000 personnes ont été hospitalisées de façon forcée dans des structures psychiatriques chaque année pour avoir un trouble mental, comme l'exprime la loi française aux articles L3211-1 à L3211-13 du Code de la santé publique. C'est appelé des soins sans consentement. 25 000 personnes ont été placées en chambre d'isolement dans les hôpitaux psychiatriques chaque année. De plus, 95 000 personnes ont été sujettes à des traitements forcés dans la communauté chaque année. C'est appelé programme de soins. Et ces personnes vivent sous la menace explicite d'une réhospitalisation forcée. La France a 640 lits dans les institutions psychiatriques de sécurité appelées unités pour malades difficiles, UMD. Selon les statistiques de l'IRDES, 8000 personnes ont été placées sous contention mécanique dans les structures psychiatriques en 2022, mais cela est peut-être sous-estimé. Le nombre de personnes placées sous sédation lourde ou traitement invalidant n'est pas connu. Le nombre de décès liés aux contentions et aux sédations lourdes ou aux traitements invalidants n'est pas connu. Le nombre de personnes âgées placées sous contention dans les institutions EHPAD n'est pas connu. Le nombre de personnes adultes et enfants placées sous sédation lourde ou confinées dans les institutions EMS n'est pas connu. 4. Les personnes sont traumatisées par les hospitalisations psychiatriques forcées. Nos membres décrivent comme des personnes calmes et non dangereuses. Comment des personnes calmes et non dangereuses sont traitées avec les pompiers, la police, les chiens, les menottes, la contention sur des civières dans les couloirs des urgences, quelquefois pendant des jours. La violence psychiatrique est telle que nous connaissons plusieurs personnes qui n'ont jamais pu comprendre ce qui leur était arrivé. Quand les personnes se plaignent ou se sentent stressées et perdent leur calme, elles sont considérées comme dans le déni des troubles, ou dans un délire de persécution, ou dans une psychose maniaque. Et ce sont des motifs pour imposer davantage de coercition et de punition dans un engrenage circulaire. Les personnes sont traitées de façon pire que des criminels, pourtant sans avoir commis de délits et sans que la durée de leur peine ne soit connue. Le seul moyen d'en sortir semble d'être la soumission, ne jamais se plaindre, se confesser d'avoir le trouble mental, être sociable avec les autres patients, mais pas trop, et prétendre se trouver mieux grâce au traitement. Après cela, les personnes sont intimidées et menacées par la loi dans la soumission à une injection mensuelle de sédatifs lourds et invalidants sans limitation de durée, c'est-à-dire pendant des années. 5. Traitement psychiatrique forcé des enfants, éducation sacrifiée, violence physique et sexuelle en institution et dans les familles d'accueil. Selon le quotidien Libération, 4 sur 10 enfants autistes sont placés sous médicaments psychiatriques. Le Haut Conseil de la famille tire l'alarme. Pour les enfants, entre 2014 et 2021, les données mises à disposition par l'assurance maladie montrent une augmentation de la consommation de plus 48,54%, plus 48,54% pour les antipsychotiques. Plus 62,58% pour les antidépresseurs. Plus 78,07% pour les psychostimulants. Et plus 155,48% pour les hypnotiques. Il nous a été rapporté que ces traitements psychiatriques de l'enfant peuvent être forcés. Par exemple, le produit neuroleptique risperidone a été donné à un enfant de 4 ans et que les enfants sont sédatés en institution pour le confort du personnel. Dans les institutions appelées instituts médico-éducatifs, ou IME, les enfants ont seulement 6 heures de scolarisation par semaine et sont exposés au risque de violences physiques et sexuelles. Un cas récent de violences physiques et psychologiques, de travail forcé et de surmédication en famille d'accueil a été publié. Alors, je vais quand même donner les notes. Voilà, alors donc... Donc, ça va de... De lire DES, donc après c'est sur santémentale.fr, sur Doctissimo, 10 jours attachés sur un brancard en psychiatrie, Doctissimo.fr, Libération, enfants et adolescents autistes, une génération sous cacheton, Libération.fr, donc du 20-01, article du 20-01-2025. Au conseil de la famille, quand les enfants vont mal, comment les aider ? www.hcfea.fr. Et l'organisation Neurodiversité France demande une enquête sur les institutions IME pour enfants. C'est sur le site laneurodiversité-france.fr. Voilà, je poursuis donc la lecture de ce... Ce texte intitulé « Convention contre la torture 82e session, rapport parallèle pour la France voilà, stop au traitement forcé. 6. Des personnes contraintes à s'exiler pour échapper à la maltraitance et à la torture institutionnelle ou psychiatrique pratiquée en France. Il n'y a pas de statistiques, mais le collectif connaît plusieurs personnes qui ont choisi l'exil pour échapper à la maltraitance psychiatrique ou institutionnelle, au traitement forcé ou à la torture psychiatrique en France, dont certains ont la nationalité française. Ces personnes doivent faire face à des imbroglios bureaucratiques et perdre leurs droits. 7. Il n'existe pas de recours légal effectif. En pratique, le seul recours légal contre cette torture psychiatrique qui serait effectif en France serait d'obtenir une expertise judiciaire psychiatrique certifiant que la personne n'a pas de trouble mental. Ensuite, porter plainte pour dommages corporels contre le directeur de l'hôpital psychiatrique dans l'espoir d'obtenir une compensation financière. Le recours ultime en France, qui est la Cour de cassation, a établi que le juge appelé juge des libertés et de la détention, qui supervise les hospitalisations psychiatriques forcées et les traitements forcés, aujourd'hui, c'est tout simplement un juge judiciaire qui le fait, ne doit baser sa décision que sur des certificats médicaux. C'est la jurisprudence référencée CAS, 1ère CIV, 27 septembre 2017, numéro 16, 22, 1.544. Les plaintes auprès de l'ordre des médecins ne sont pas effectives. Nos correspondants et correspondantes disent que le médiateur français appelé défenseur des droits semble ignorer les plaintes quand elles émanent de deux personnes avec handicap psychosocial. 8. Nos demandes. Il nous semble légitime de demander si le traitement psychiatrique forcé des groupes sociaux comme le sont les personnes avec handicap psychosocial, les personnes autistes et les enfants, représente un crime contre l'humanité. Nous demandons la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité. L'arrêt immédiat des hospitalisations forcées et des traitements forcés pour les adultes et les enfants. La désinstitutionnalisation et des réparations complètes. Voilà, en addition, voici des liens qui expliquent comment, vis-à-vis de la législation internationale, la psychiatrie forcée peut être une forme de torture. Ce sont le rapport du rapporteur spécial sur la torture de 2013, le protocole d'Istanbul de 2014 et les témoignages des survivants de la psychiatrie, CHRUSP. Voici par exemple... ils évoquent une vidéo qu'on ne peut pas regarder ici, qui est pratiquée, voilà, ce qui est, montrant ce qui est pratiqué aux urgences psychiatriques de Créteil en 2023. Contention directe, injection forcée. En regardant cette vidéo, on peut noter qu'il n'y a aucune communication, aucun examen clinique et aucune enquête causale. Pas de recherche de médicaments, alcool, substances, sevrage, conditions somatiques, trauma, stress, conflit, souffrance sociale, conjugale, familiale, réactivation de mémoire traumatique, etc. Il n'y a pas d'accueil ni de désescalade, mais à la place, la violence médicale et la fausseté de la prétention de soins et de bénéfices. De cette façon, on ignore la cause de la demande et on est certain de nuire gravement à la personne et de ne pas l'aider, mais de la détruire psychologiquement, socialement et médicalement. Le résultat est que la personne est lourdement traumatisée. Beaucoup de personnes traitées de cette façon ne comprendront jamais ce qui s'est passé. Il n'y a pas de résolution, mais l'invalidation et l'enfouissement de la demande initiale par la chimie et le traumatisme. Un certain nombre de personnes tentera ou réussira à se suicider face au désespoir engendré par les concepts erronés de maladie mentale incurable et par la destruction de leur perspective de vie. Il y a une souffrance physique provoquée par les liens, la position, les pressions, les troubles circulatoires, les mouvements anormaux induits, l'akathisie, la constipation et rétention d'urine, une souffrance psychique provoquée en particulier par l'état mental induit par les neuroleptiques, par les idées de mort et par la menace sur la vie et sur l'intégrité physique et mentale de la personne. Les produits utilisés endommagent de façon irréversible le cerveau et ils sont dangereux. Ils peuvent provoquer des troubles du rythme cardiaque par allongement de l'espace QT avec risque de torsade de pointe, de mort. Les risques de mort sont aussi dans les accidents thromboemboliques, les accidents d'inhalation, dans la constipation induite jusqu'à l'occlusion intestinale, dans la rétention urinaire avec possiblement des complications infectieuses rénales. Les produits peuvent provoquer un syndrome malin des neuroleptiques. Ils sont très difficiles à arrêter. Ils fabriquent à la fois les symptômes positifs et négatifs des troubles qu'ils sont supposés corriger. Ils donnent des maladies métaboliques, des mouvements anormaux irréversibles et réduisent l'espérance de vie. Nous pensons que les éléments qui permettent d'affirmer qu'il s'agit d'une forme de torture et non pas de soins sont réunis. Souffrance aiguë, physique et psychique provoquée par les mises à l'isolement, les contentions et les injections de produits neurotoxiques. Souffrance infligée par l'autorité dans un objectif de modifier les comportements, les opinions et les croyances de la personne. Les électrochocs sont pratiqués en France sans consentement. 3500 personnes ont reçu des électrochocs en France en 2019, dans un tiers des cas sans consentement. L'information fournie est erronée. Quand c'est contraint, c'est pas du soin, c'est le slogan des mouvements d'usagers en France. Attention, les médicaments psychiatriques peuvent donner des syndromes de sevrage quand on baisse les doses qui peuvent induire des suicides et des gestes violents. Le sevrage doit être progressif et fait par un médecin. Voilà, c'était donc la Convention contre la torture, un rapport du collectif Arrêt des traitements forcés. Et nous sommes toujours à l'entonnoir et sur Radio Libertaire. Et je voulais donc vous lire des passages de la brochure Gilles Deleuze et Félix Guattari, La machine à gazouiller, pour n'en dire pas que du bien. Je lis. Donc c'est écrit par Guillaume Ohlendorf en mai 2010. Gilles Deleuze, je le voyais comme un gauchiste et un philosophe, c'est-à-dire une personne finalement conservatrice empêtrée dans des schémas de pensée préhistorique de type stalinien, trotskiste, etc. Et une personne un peu ennuyeuse qui parle pour ne rien dire. Et puis l'engouement de cinéastes indépendants, de musiciens électroniques divers, de militants, d'architectes m'a mis la puce à l'oreille. Donc ça commence bien, voilà, ça commence un peu sur le... voilà, donc apparemment tout philosophe est ennuyeux. Hein, enfin... Voyons la suite. On parlera plutôt de Deleuze et Guattari, Félix Guattari ayant coécrit les ouvrages principaux de Deleuze. Parce que Deleuze et Guattari rêvaient de faire une pop philosophie, un manuel de leur sagesse à destination de tous, donc des non-philosophes. Nous estimons leur style d'écriture magnifique, mais certainement encore trop rebutant. Espérons que ce décodage permettra, cette brochure donc, à chacun de s'y mettre, de trouver l'envie, l'énergie, le désir d'aller vers cette pensée qui nous attend servie. N'oublions pas Michel Foucault qui considère les livres comme des boîtes à outils. Prenez ce papier comme une sorte de manuel de la très complexe boîte à outils de Deleuze et Guattari. Un manuel qui ne demande qu'à être enrichi par l'échange. Eh bien justement, nous allons échanger avec ce texte. Une fois que l'on a commencé, on ne peut plus s'en dépêtrer. Effectivement, Gilles Deleuze a su nous parler, et son message, si important, ne doit surtout pas rester aux mains des universitaires, des analystes et exégètes de tout poil. Il doit revenir à ceux à qui il est destiné, non pas les gauchistes ou les politiques, mais tous ceux qui veulent se sortir du système. Alors déjà, on voit que on veut on devient anti-système, mais pas de gauche. Ça commence à, bon, ça glisse vers quelque chose d'un peu inquiétant, mais bon, peut-être que je me trompe. De tous les systèmes qui se reproduisent, État, famille et capitalisme, ces machines interviennent dans tous les domaines de la vie. Gilles Deleuze et son copain Félix ont collecté des centaines d'expériences de personnes venant de tous les univers, de tous les domaines d'activité et qui ont réussi, de tous les domaines d'activité qui ont réussi à produire des choses magnifiques, parce que sortis du ou des systèmes, capables de parler un autre langage, d'utiliser d'autres codes. Puisque tout est avant tout affaire d'expérience et non pas de discours, nous proposons à chaque lecteur, lectrice, de partager avec nous ce qu'il a trouvé en Gilles Deleuze et Félix Guattari, comme leur discours l'a aidé dans son action. Il sera beaucoup question ici de contre-culture, puisque Deleuze et Guattari ont pioché à droite et à gauche chez beaucoup d'écrivains de la Beat Generation et chez les Artaud, les Castaneda et autres qui furent les instigateurs de ces différents mouvements de contre-culture. La contre-culture, pas un assemblage de mouvements, mais un assemblage de pratiques d'indépendance que Deleuze et Guattari ont analysées, triturées, malmenées pour rechercher où était la faille, comment il devenait possible de sortir du système, de s'émanciper. Comment ça marche? Et moi, je pourrais le faire aussi? Telles sont les deux questions qu'ont posées Gilles Deleuze et Félix Guattari. L'émancipation, c'est d'abord un défi avec soi-même. On doit s'émanciper d'abord de ce qui castre, bloque au plus profond de notre individu. Ensuite, c'est au niveau inter-individuel, puis à celui du groupe que se situent les pratiques de lutte avec le système. Je ne peux parler que pour moi. C'est donc l'histoire de mon immixtion dans l'univers de Gilles Deleuze qui servira d'introduction. Je suis un passionné de musique underground. À ma rencontre avec Joy Division vers 18 ans, j'ai cru être passionné par ce côté noir, romantique de la musique. Très vite, j'ai compris que ce n'était pas tant le taux de dépression d'un morceau qui m'intéressait que sa capacité à exprimer une indépendance totale vis-à-vis des styles et des modes. Tous ces groupes underground visent à sortir et des schémas classiques de composition, du système de distribution, promotion de la musique, à parvenir à être eux-mêmes en utilisant un média commun devenu souvent un produit, dégénérer le rock, amputer la dance, mélanger les extrêmes et les inconciliables. On voit apparemment quand même que le rock et la dance sont vraiment trop classiques et finalement font partie des principes oppressants pour cet auteur. À la mort du philosophe Gilles Deleuze, dont j'avais vaguement entendu parler au cours de mes études, Sub Rosa et Mille Plateaux ont sorti leurs extraordinaires compilations. Expérimentation musicale extrême, sans flonflon ni subvention du ministère de la Culture. J'apprenais enfin à cette occasion que Mille Plateaux était un livre du même Gilles Deleuze. Alors je me suis mis à ouvrir ces fameux Mille Plateaux et l'Anti-Oedipe, le livre qui le précède chronologiquement. Il n'est pas bon de résumer la pensée d'un auteur. C'est encore plus difficile d'y parvenir quand ils sont deux à écrire. Ce qu'on trouvera ici est donc très réducteur et certainement un peu massacreur de la finesse des pensées croisées des deux auteurs. Les professionnels de la philo peuvent donc passer leur chemin. Ils risquent d'être déçus. Deleuze et Guattari ont lancé, ou plutôt recueilli, à force de presser et de croiser les expériences de dizaines d'auteurs, d'artistes, politiques, psy, scientifiques et révolutionnaires de tout poil. Sortir du système n'est pas seulement dire non à Davos, c'est oui aux idées estampillées de gauche. C'est avant tout être capable de produire des choses, des textes, des idées qui soient en clash avec les référents généraux. Faire sa contre-culture ou son bout de contre-culture. Je me souviens d'avoir discuté avec un traveller anglais, un DJ des Spiral Tribe, nomade forcené qui sillonne l'Europe et essaime son parcours de party sauvage et de disques autoproduits SP23. Une personne capable de faire ce qui lui plaît et surtout de donner envie aux autres de le faire. De diriger sa vie hors du système, marche du travail, famille. Une personne libérée en partie grâce aux drogues psychédéliques. Si vous voulez changer le monde, changez vous-même, vous-même, m'avait-il dit. L'Anti-Oedipe, c'est un peu ça. Un manuel pour se libérer des contraintes sociales, partant un manuel pour éviter de les reproduire dans sa vie de tous les jours, et le passage par le LSD n'est pas une obligation. L'Anti-Oedipe est le livre culte des deux auteurs qui leur assura une jolie réputation au cours des 70s. Un bouquin compliqué, pas évident du tout au premier abord, et dont on peut se demander la fonction. Pourquoi attaquer Freud, la psychanalyse, l'Oedipe, ce qui ressemble fort à une thèse universitaire, sans autre intérêt, laisse peu à peu transparaître entre les lignes, puis très directement une sorte de guide pratique de l'émancipation. Justement parce que s'émanciper, lutter, faire face, c'est d'abord se libérer de soi-même, ou plutôt de notre forte capacité à reproduire au quotidien les schémas sociaux qui nous répriment. Deleuze et Guattari veulent libérer la folie qui est en nous, ne plus avoir affaire à une génération de névrosés sous Prozac, mais à des personnes capables d'admettre mieux, de valoriser leur folie, de laisser aller, agir, le schizo qui est en nous. Alors, nous ferons vraiment une critique hein, de cette position-là, juste dans quelques temps, dans quelques instants. Substituer la schizoanalyse à la psychanalyse, un autre désir. La psychanalyse a eu le mérite de montrer l'existence, de découvrir l'inconscient, mais pour le brider, le réduire à une image dégradée. Sexualité, papa-maman, manque besoin du phallus, etc. L'inconscient de Freud se résume à une production de symboles que l'interprétation psychanalytique ramène toujours à la famille et à la sexualité comme un sale petit secret familial. Or, réduire l'inconscient, c'est nous castrer, car l'inconscient, c'est un peu notre boîte à idées, ou plutôt notre coffre à désirs. Et si l'inconscient ne disait pas, mais agissait, produisait, voir l'inconscient comme machine désirante. Pourquoi machine ? Parce qu'une machine produit. Pour Deleuze et Guattari, loin d'être le lieu de ressassement des mesquineries familiales, l'inconscient est une machine à produire du désir. L'Anti-Oedipe est donc un livre militant, où l'on voit comme la politique, le régime qui nous dirige, descend et se reproduit jusqu'au plus profond de notre être. L'émancipation passera donc par la prise de conscience de cette présence, de cette reproduction, du schéma général de pouvoir en nous, et de notre aptitude à le détruire grâce aux forces de l'inconscient, notre usine à désir. Deux thématiques comme trame générale d'un livre aux très multiples entrées. Alors, d'abord, ne pas laisser les psychanalystes remplacer les prêtres et asseoir la soumission à l'État, à ses valeurs, à son marché, comme les hommes d'Église l'avaient fait jusqu'au XIXe. Ne pas laisser la psychanalyse devenir la machine abstraite, le big brother conceptuel de l'État. Chaque État a sa machine abstraite, une sorte de socle de pensée qui lui permet d'asseoir son pouvoir en se reproduisant au niveau de l'individu. 2. Rappeler à chacun l'importance du désir, sa force, son caractère producteur. Dégager le désir de la prison dans laquelle on l'a porté. Une société qui emploie le même mot pour l'appétit sexuel et la volonté de combler un manque hypothétique d'une casserole ou d'un collier est tombée bien bas. Le désir n'est pas la volonté de la chose qui manque. Le désir est action et surtout production. Il faut apprendre à désirer, à faire en sorte que notre désir nous permette d'agir sur le monde, le dehors, à produire du désir et donc à produire par le désir. Le premier problème s'est réglé de lui-même. Deleuze et Guattari n'intituleraient peut-être plus leur livre L'Anti-Oedipe aujourd'hui parce que la psychanalyse a échoué dans sa tentative de devenir la machine abstraite, le discours qui soutiendrait la domination d'État et du marché. Selon Deleuze et Guattari, c'est plutôt l'informatique, l'information et la communication qui servent de discours dominant, qui mettent en place la société de contrôle tant redoutée. Le deuxième lui reste d'actualité parce qu'il est universel, proprement philosophique. Alors déjà, on va peut-être faire une petite pause là. Dans le fait de parler de changer son moi pour changer le monde, c'est vraiment le principe même de tout ce qui est non pas anticapitaliste, mais au contraire. Complètement capitaliste. Le fait que justement nous sommes producteurs nous-mêmes de volonté. Bon, voilà, nous sommes producteurs nous-mêmes et le fait que nous soyons producteurs nous-mêmes de par notre désir, eh bien, nous fait être se contenter. Se trouver bien dans l'individualisation, dans l'atomisation à laquelle nous sommes finalement assignés par ce même pouvoir qui, pour régner, divise, et divise jusqu'au bout, en quelque sorte, puisque va jusqu'à l'indivisible, à savoir jusqu'à l'individu, jusqu'à l'atomisation de l'individu. On ne peut pas aller plus loin que dans le diviser pour régner. Voilà. Donc, oui, ça va complètement dans le sens de ce qui est actuellement, de ce qu'on déplore actuellement. C'est-à-dire que, non, l'Anti-Oedipe n'est pas un livre militant, sinon militant pour toujours autant de soumission, mais en tant que fou valorisé en tant que fou, en tant que schizo, pas dangereux finalement, pas dangereux et en tout cas pas dangereux politiquement. Bon, je continue un petit peu. Ce texte de Guillaume Ollendorf. suivre son désir, ça veut dire quoi? La société de consommation fonctionne effectivement sur le principe du désir, mais un désir non productif, un désir assimilé au manque. C'est en créant du manque que l'on crée de nouveaux marchés. Or, le désir n'est pas affaire de manque, comme nous le fait croire la psychanalyse, car l'analyse, sous les augures oedipiennes, ramène tout à un manque du phallus, du père, etc. Le désir est affaire de production. En rêvant, nous créons plein de machines, à voir dans un sens très large. Le corps est une machine, chaque organe est une machine, un paysage peut en être une, machine à souvenir, émotion, prédiction, etc. La machine définit par son effet, elle produit quelque chose, on ne s'émancipera qu'en laissant ces machines individuelles se connecter au dehors et produire du réel, ne plus ramener les manifestations inconscientes à la sexualité et surtout à la castration, la peur du père, le dégoût de la mère, bref, à la famille, c'est admettre qu'elle porte sur l'extérieur. On délire sur le social, pas sur sa famille. Le schizo est un bon exemple, il ne délire pas sur sa mère, mais plutôt sur les grands hommes, il se prend pour Napoléon, le monde, etc. Bon, ça c'est vraiment... Le schizo mâle, blanc, cisgenre, peut-être que un schizo autrement pense à d'autres choses, on ne sait pas. Pour Deleuze et Guattari, l'inconscient est donc branché sur le monde, sur le social. Branché, le terme est juste, car surtout l'inconscient est pour eux le moteur de l'action. Alors là, vraiment, le fait de... Alors oui, c'est vrai, dans l'anti-oedipe, il est question de machines désirantes. Alors, il y a un petit peu quelque chose de... comment dire... un peu hâtif, quoi, à définir nos psychismes, nos âmes, nos corps aussi d'ailleurs, comme des machines. Ça, là encore, ça va complètement dans le sens de la de ce qui, enfin disons, ça annonçait, puisque c'était en 2010, hein, il y a 15-16 ans, ça annonçait ce qu'on a maintenant avec cette promesse de prolongation du corps par la machine ou du prolongement de la machine d'ailleurs par le corps vivant, on ne sait plus. Il y a eu des... l'anti-oedipe a fait des petits, par exemple. On a par exemple des ouvrages comme Les Netocrates de Alexander Bard et Jan Soderquist, qui sont un petit peu des chercheurs aussi, eux-mêmes, ils sont... il développe une vision matérialiste de l'ère informationnelle fondée sur les neurosciences et la remise en cause des concepts, selon eux, dépassés d'âme, d'ego ou d'inconscient. Donc ils vont encore plus loin que Deleuze Guattari. En rupture avec la pensée humaniste qui s'est imposée au monde moderne par l'entremise des Lumières, de l'idéalisme hegelien et de la psychanalyse freudienne, il montre qu'à l'heure de la révolution technologique de l'information, le renouveau culturel, social et politique repose sur la pensée et la pratique du réseau. L'homme n'est plus réduit à une entité isolée et homogène, il est un individu morcelé et contradictoire, en relation constante avec son environnement, dont l'activité est moins déterminée par le libre arbitre que par la génétique. Hein, bon, ça, c'est vraiment leur point de vue. Prenant d'ailleurs eux-mêmes l'individualisme, puisque... on peut citer par exemple l'individualisme, mais d'un ego qui lui-même va un peu se dissoudre dans autre chose. C'est assez étrange comme littérature. Peut-être qu'on en reparlera dans d'autres occasions à l'entonnoir. Alors, je poursuis un peu parce que j'avais aussi encore d'autres commentaires à faire sur cette brochure. Alors, pour un avenir, mais des devenirs. Ah oui. Alors, car que ce qui caractérise l'œuvre, action, objet, idée artistique, scientifique, philosophique, politique, picturale, révolutionnaire, de mettons une boîte de ravioli, c'est le désir qui a conduit à sa production. Voilà, donc le désir peut aussi produire des boîtes de ravioli. Pour s'émanciper du système, pour mener à bien sa production, son travail, il faut avant tout être capable de désirer, d'apprendre à désirer. Apprendre à désirer, c'est-à-dire à produire comme il est pathétique d'attendre d'être aimé quand il faudrait apprendre à aimer, puis d'être capable de se donner les moyens de faire, de le faire, de travailler à sortir ce désir. Ce désir-là n'est plus la volonté de pouvoir telle qu'a pu la décrire Nietzsche, mais plutôt la grâce. On désire et on trouve non pas qui l'on est, mais quoi devenir, on atteint la grâce. Pas un avenir, mais des devenirs. Deleuze et Guattari n'appellent pas à une sorte d'introspection générale qui nous permettrait de retrouver notre être dans sa plénitude. C'est justement l'inverse. Nous avons décrit l'antiotype à deux. Comme chacun de nous était plusieurs, cela fait beaucoup de monde. Pourquoi plusieurs? Ce n'est pas qu'une boutade. Nous sommes effectivement constamment en changement et par là porteurs de multiples identités, segmentées dans notre vie sociale, adolescent, étudiant, militaire, toujours à tendre vers un autre nous-mêmes, devenir ce dont nous rêvons. Pas seulement sur un plan professionnel, sur un plan affectif, sexuel, etc. On tend toujours vers plusieurs devenirs simultanés. Nous sommes toujours en mouvement et les chemins que nous suivons sont ceux de notre devenir. Devenir femme, devenir animal, notre inconscient nous propose des schémas de possibles, des voies à suivre qui nous définissent à l'instant T. Chacun de nous produit des devenirs différents, des devenirs qui ne correspondent pas à une activité proposée par le système, à un statut social, mais bien à une production de désir. Ce sont les devenirs émancipateurs ou devenirs révolutionnaires. La révolution, c'est l'action plus ou moins violente d'une minorité qui s'estime opprimée. N'entendons pas minorité sur un plan quantitatif, la minorité peut être une majorité au sens quantitatif. Alors peut-être j'ai voulu dire qualitatif, mais bon, en tout cas c'est quantitatif qui est imprimé. La minorité est un ensemble de personnes qui se retrouvent positivement sur une communion d'intérêts, de statut, de mode de vie, les gays, les minorités raciales, entre guillemets. La minorité se définit aussi négativement, c'est ce groupe de personnes qui ne correspondent pas au canon de la société, à l'étalon. Blanc, occidental, cadre, vivant en milieu urbain. Ceux qui n'y correspondent pas ou refusent d'y correspondre. Le devenir révolutionnaire passe par la prise de conscience de son caractère minoritaire. D'où un très fort attachement de Deleuze et Guattari à la linguistique. D'abord parce que le langage est aussi le premier lieu de transmission des fascismes, des oppressions, tant au niveau de l'État qu'au niveau individuel. Mais Deleuze et Guattari insistent surtout sur l'importance des langues mineures. Prenant l'exemple de l'anglais argotique des Noirs américains, pas de langue majeure, pas de langue étalon, mais une évolution constante de la langue qui échange et reçoit des flux de ses multiples déviations. La minorité dévie, en ce sens, elle fait dévier le reste. La musique underground est un très bon exemple de conscience de cette minorité. La créer et lui donner des moyens de lutter, créer une meute, toujours en mouvement, à la chasse. Deleuze et Guattari se basent énormément sur des travaux d'artistes déviants, du pop art, ou pop. Patti Smith, Burrow, Castaneda, Artaud. Il est déjà cité tout à l'heure, de tout cela, en ce sens qu'ils expriment un devenir révolutionnaire. À nous de trouver le nôtre, à nous de fuir et de faire fuir le système qui nous entoure. Etc., etc. Alors, la philosophie de Deleuze et Guattari n'est pas, contrairement à ce qu'on a laissé croire, un appel à un hédonisme total, à la fête constante. C'est un appel gay et spirituel, mais assez grave, hein, au militantisme à l'échelon individuel, à l'opposition et à la liberté des consciences. Donc, à l'échelon individuel, encore une fois. Donc voilà. Ensuite, la vie comme une œuvre d'art. Donc il faut faire de sa vie une œuvre d'art. Machine désirante, toute machine produit, notre inconscient produit du désir, l'expérimentation s'oppose à l'interprétation psy, le titre anti-Oedipe montre bien cette volonté de sortir de la vision réductrice de l'inconscient, produit du désir, de libérer les forces qui s'y trouvent. Votre inconscient produit du désir. Donc voilà, c'est une machine à désir qui, connectée à d'autres machines réelles, celle-là produira du réel. Alors expérimentez, laissez agir vos idées les plus folles, suivez votre folie, tâtonnez avec elle, trouvez-vous votre devenir en expérimentant autour de votre production de désir. Pensez à la musique, à la peinture, à l'art en général, etc. etc. Donc là, on voit un peu comme la folie, en fait, la folie positive, le schizo-positif, comme une super force, en fait, une force de super-héros, en fait, carrément. un peu à l'image de ce morceau de que l'on peut trouver et qui peut être un petit peu, qui a l'air un peu d'être l'emblème de ce collectif, le morceau intitulé Comme des fous de Boss, où vraiment avec notre folie on est censé complètement changer tout, changer le monde, faire la révolution, et juste par la magie de la folie, et bien se libérer de toutes les chaînes. Donc on en écoute un extrait, et nous allons vous dire au revoir pour aujourd'hui. L'entonnoir s'est terminé et nous avons à la suite sur Radio Libertaire l'émission de Radio Libertaire Méditerranée, Un rayon de soleil. Salut.
Yeah!